Le thème central de ce dimanche est clairement énoncé. Il s'agit de conjuguer l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tandis que l'Ancien Testament insistait sur l'amour de Dieu sans pour autant négliger l'amour du prochain, comme on le voit chez les prophètes, qui rappellent sans cesse que si l'amour de Dieu ne passe pas par l'amour du prochain, on est dans l'hypocrisie. Mais il y a des limites à apporter à cet amour du prochain. Le Nouveau Testament, au contraire, est relativement discret sur l'amour de Dieu. Et il parle surtout de l'amour du prochain. À plusieurs reprises, Jésus, questionné sur le plus grand commandement, répondra toujours « Le seul commandement qui est la conjugaison de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain ». Pourquoi cette insistance du Nouveau Testament sur l'amour du prochain ? La réponse est très simple. Quand il s'agit de l'amour de Dieu, on peut toujours se raconter des histoires, car c'est invérifiable. On peut, au nom de Dieu, faire des choses à la fois très bonnes et en même temps beaucoup moins bonnes. Alors Jésus nous dit que la seule vérification possible de l'authenticité de notre amour pour Dieu, c'est dans la manière dont nous aimons le prochain. C'est ce qui sera très bien dit dans la première lettre de Jean. « Celui qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Et comment prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas si l'on n'aime pas celui que l'on voit ?» L'évangile que nous venons de proclamer ne se limite pas à la parabole. Elle est encadrée par un double dialogue entre Jésus et le docteur de la loi. Dans le premier dialogue, celui-ci demande à Jésus « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus leur envoie la loi en lui disant « C'est dans la loi qu'il faut que tu trouves la réponse. » Et il répond « Aimez Dieu et aimez son prochain. » Mais le légiste renchérit et demande à Jésus « Comment identifier le prochain ?» Dans l'Ancien Testament, le mot « prochain » qui est traduit par le grec comme prochain, mais dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus ciblé. Il s'agit, dans le Deutéronome, d'aimer son compatriote ou d'aimer l'étranger qui vit sur son territoire et parfois d'aimer les ennemis. Le prochain, c'est un petit peu global et l'Ancien Testament en hébreu est beaucoup plus précis. Au fond, il y a une limite qu'on apporte à cet amour du prochain, qui se limite en quelque sorte à celui qui vit auprès de moi. Jésus ne veut pas entrer dans ce débat et il ne répondra pas à la question, non pas qu'il fasse un piège, mais parce qu'il pense que c'est une fausse question. Et c'est alors qu'il raconte une parabole. Les personnages ne sont pas choisis au hasard. Le prêtre et le lévite sont un peu les représentants de ceux qui observent la loi avec le plus de scrupules et qui donc devraient agir envers ce blessé trouvé sur la route. Or, ils ne font rien. Le Samaritain, qui est un ennemi du Juif, au contraire, va tout faire pour, en quelque sorte, venir au secours de cet handicapé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 7 verbes d'abord, et 7 autres verbes après, 14, chiffre parfait de tout ce que fait le Samaritain. Il est ému de compassion, il s'approche, bon, vous irez retrouver le texte, vous vous retrouverez tout cela. Le lendemain, il sort 2 deniers de sa poche, il les donne à l'hôtelier, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le prêtre et le lévite n'ont strictement rien fait, et lui, il a fait tout ce qui était possible. Ce récit est donc construit sur l'opposition entre ne rien faire et tout faire pour le prochain. On ne dit rien du comportement du prêtre ou du lévite, sinon pour mettre en relief celui du samaritain. Le récit se conclut par une question que Jésus pose au docteur de la loi. Lequel des trois a été le prochain ? Et évidemment, c'est le Samaritain, et il a bien répondu. Cette parabole opère un changement radical par rapport à la question de départ. On ne s'interroge pas ici sur ce qui doit faire l'objet de notre sollicitude, mais sur celui qui prodigue les soins. La parabole n'est pas centrée sur le bénéficiaire des soins, sur le bienfaiteur, sur le secouriste, et non pas sur l'homme secouru. Jésus refuse donc la question trop étroite ou trop mesquine, préoccupée par des frontières ou des délimitations dans le champ bien précis à l'exercice de l'amour. Jésus transforme la question de départ en parlant non pas de celui que je dois aimer, mais de l'attitude que je dois prendre lorsque je veux aimer. Le champ de l'amour du prochain ne se définit plus en fonction de l'extérieur, mais en fonction de l'intérieur. C'est d'abord une attitude en nous, une disposition d'esprit. Or, ce comportement est décrit par Luc dans cet évangile avec en quelque sorte les mots mêmes qu'on emploie pour Dieu ou pour le Christ dans l'évangile de Luc. Jésus semble répondre dans cet évangile « Si tu veux vraiment aimer ton prochain, il faut que tu l'aimes comme Dieu l'aime. » Un certain nombre de données nous amènent à comprendre les choses ainsi. Par exemple, « Il est pris de compassion », phrase qui est souvent appliquée par Luc à Dieu lui-même ou à Jésus dans son évangile. Au fond, on insiste beaucoup dans cet évangile pour dire que l'amour, c'est aimer comme Dieu aime. Quelque chose que nous répétons souvent, mais ici Luc le met en scène dans cette parabole. Or, l'amour et la miséricorde de Dieu s'étendent à tous les hommes, sans exception. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous, car les pécheurs en feront tant. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous revient-il ? Les pécheurs eux-mêmes le font. Mais aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, de même que Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Et soyez miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. L'humanité a toujours excellé à inventer de nouveaux antagonismes, de nouvelles frontières dans l'approche d'autrui. Aux Juifs et aux Samaritains ont succédé aujourd'hui les immigrés et les nationaux, les salariés, les employeurs, les blancs, les noirs. Enfin, tout au long de l'histoire, nous avons ces répétitions d'antagonismes binaires. L'Évangile ne cesse de nous interpeller là-dessus, justement, pour nous dire qu'il faut les casser. Et saint Paul insistera beaucoup là-dessus, qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Donc, cet Évangile nous invite en quelque sorte à dépasser nos discriminations fondées trop souvent sur la condition sociale, la fortune, la religion, la culture, l'âge, le sexe ou les opinions politiques. Enfin, l'amour auquel nous sommes invités ne consiste pas simplement en paroles, mais il prend corps dans des actes, et cela ressort de la description détaillée de l'attitude du bon samaritain. L'amour ne se ramène pas simplement à une pure attitude intérieure, mais il s'extériorise dans des gestes très concrets. C'est ce que développe en quelque sorte l'encyclique Fratelli Tutti du pape, qui nous rappelle au fond l'universalité de la fraternité de l'amour. Nous sommes tous frères et il faut dépasser en quelque sorte nos antagonismes nationaux en particulier. C'est entré dans notre devise nationale en 1848, on avait d'abord en 89 pris liberté, égalité, et en 1848 on va ajouter la fraternité, valeur éminemment chrétienne et biblique. Eh bien, aujourd'hui nous pouvons nous demander si justement nous vivons cette fraternité citoyenne, bien sûr, mais aussi cette fraternité universelle, de dépasser un peu nos difficultés à entrer en communication ou en amour universel avec ceux qui ne sont pas comme nous ou de nos propres opinions. Le Christ nous y invite, c'est quelque chose qui est à faire, ça n'est jamais fait, c'est toujours difficile, parce qu'il faut sortir de soi pour entrer dans la logique de Dieu. Amen.